retrouvons sur Radio Grenouille 88.8 pour un voyage spatio-temporel au cœur de la recherche. De jeunes chercheurs, issus des disciplines variées de sciences humaines et sociales, vous amènent à travers le temps et l'espace pour vous faire découvrir leurs champs, leurs questionnements et leurs intérêts. Au fil de ces épisodes, découvrez les parcours de nos archéologues, historiens, littérateurs, juristes, musicologues et photographes.
Épisode 2. Émilie Mitran, intimité révolutionnaire.
Grand bond dans le temps, mais on reste en France. On se retrouve à Paris en 1789. Émilie, doctorante en histoire américaine du XVIIIe siècle, elle s'intéresse à la vision de la Révolution française sous le regard d'un révolutionnaire américain. Qu'est-ce qu'on entend ?
Alors, ce qu'on entend, c'est le bruit d'une jambe de bois. Pour faire le lien avec ma thèse, j'étudie une figure historique dont le nom est Gouverneur Maurice, et cet homme portait une jambe de bois.
Pourquoi ce personnage ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? On entend Gouverneur Maurice, un nom particulier. Souvent, en dehors du micro, tu nous dis c'est pas gouverneur, sinon c'est pas le gouverneur, c'est Monsieur ça. Gouverneur. Qui est ce personnage ? Pourquoi tu le cherches ?
Alors c'est un personnage sur lequel peu d'historiens ont travaillé et pourtant il est assez important dans l'histoire à la fois américaine et française. C'est l'auteur du préambule de la Constitution américaine qu'il a en partie rédigé. Donc c'est ce que l'on appelle aux États-Unis un père fondateur, puis qui est venu s'installer en 1789 en France, donc pour poursuivre ses affaires de financier. Et il devient aussi par la suite ambassadeur des États-Unis en France, donc une figure de première importance pour la période.
On va écouter un petit morceau de ce journal.
C'est ça.
Les domestiques ne savent pas quoi faire de moi à cause de la simplicité de ma tenue, de ma jambe de bois et de mon ton d'égalité républicaine qui semble complètement déplacé à la levée d'un ministre.
J'imagine qu'en lisant un journal intime, en plus c'est un journal intime, donc tu dois être quand même assez proche de lui. Comment tu vis cette relation parce que c'est de connaître quelqu'un aussi bien.
La question de l'intimité n'est pas la même au XVIIIe siècle que de nos jours, donc bon, on pourrait rentrer dans des questionnements après. Divers, mais clairement, oui, j'apprends à connaître en tout cas son ton, sa manière d'appréhender les relations sociales et d'évoluer dans un milieu qui n'est pas le sien, puisque justement il détonne de ce milieu très, très mondain. Mais disons que dans son journal, on a beaucoup d'anecdotes qui nous permettent de cerner le personnage, de la façon dont il parle de son environnement et des autres, nous permet de dresser un portrait de Maurice qui est plutôt plaisant.
Alors que je me trouve là assis, une personne entre et annonce la prise de la Bastille, dont le gouverneur a été décapité, de même que le prévôt des marchands, lui aussi tué et décapité. Ils transportent les têtes au bout de leurs piques dans toute la ville. L'assaut de cette citadelle fait partie des événements les plus extraordinaires dont j'ai entendu parler. On dit que cela a coûté la vie à 60 assaillants. Hier, il était de la dernière mode à Versailles de prétendre qu'il n'y avait pas de désordre à Paris. Je suppose que les soubresauts du jour auront apporté la preuve que tout n'est pas parfaitement calme.
Alors, pourquoi étudier la Révolution française à travers du regard d'un Américain ?
Je crois déjà que c'est une voie assez particulière, celle que, en tout cas, Maurice propose dans son journal. Et justement, c'est avec ces détails-là que lui seul nous donne que l'on peut apprendre encore des choses finalement sur la Révolution française qui reste un événement que l'on connaît, en tout cas que l'on croit connaître bien. Par exemple, dans l'extrait que l'on vient d'entendre, on voit qu'il est surpris par la prise de la Bastille. Il y a une certaine aussi frayeur quand il voit la puissance, la violence même du peuple. Et aussi la critique de la royauté, de son hypocrisie à ce moment-là. Donc il y a toutes ces choses-là dans le journal et je pense que c'est sa qualité d'Américain qui fait qu'on peut avoir un regard un petit peu neuf sur un événement, sur des événements en tout cas canoniques que l'on connaît en France.
Sa place par rapport à... lui, il est plutôt de... il vit plutôt avec la noblesse, avec la bourgeoisie ou...
Oui, il réside à Paris près des Tuileries, donc proche, disons, de l'aristocratie dure, proche du roi. Et il est plutôt proche de la pensée de la noblesse. Donc même si c'est un révolutionnaire américain, un républicain, en France, il se rapproche des aristocrates et des contre-révolutionnaires.
Tu sais pourquoi il se trouve en France à ce moment-là? Pourquoi
oui.
Il est de visite ou c'est quoi son
oui.
voyage?
Alors après la révolution américaine, après l'institution de la Constitution américaine en 1787, il va en France pour spéculer sur la dette américaine que possède la France.
Ce personnage est quand même un témoin étranger qui va te parler, toi qui va nous parler, nous tous, de la France. Quelle est ta posture de chercheuse par rapport à ce journal dont tu nous parles et dont certains extraits vont être écoutés?
Déjà, il faut se poser la question de son objectivité. Moi, en tant que chercheuse, je ne vais pas croire, c'est-à-dire prendre sa version des faits et dire voilà la vérité, mais c'est bien ce qu'il nous dit que je vais étudier, c'est les particularités de sa vision, puisqu'il n'y a pas de vérité à proprement parler, ce sont que des subjectivités qui sont, disons, un puzzle de subjectivités qui font l'histoire. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'était quels sont ces détails qu'il nous donne.
Donc j'imagine que tous ces livres, tous ces journaux, tous ces, c'est en anglais. Est-ce que ce document est traduit? Est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce que aujourd'hui on pourrait avoir accès à ce document si fragile qui se trouve aux États-Unis?
Oui, alors justement, il vient d'être traduit en français pour ceux qui ne peuvent pas le lire en anglais. C'est aux éditions de Rose. Il a été traduit par mon directeur de thèse, Gérard Hugues. Et actuellement, c'est donc le premier volume d'une suite de volumes qui va suivre. Et c'est l'année 1789 qui est publié.
On peut parler de vrai, de faux, de doute, déjà dans l'écriture d'un personnage par rapport à un événement. Une traduction, est-ce que c'est encore une doute et un vrai ou un faux sûr? Un vrai, une doute et un faux.
Je comprends. Disons qu'on rajoute un filtre, forcément, on va traduire, donc on va l'interpréter, ce texte. Mais je dis « on » puisque j'ai participé également à la traduction du manuscrit. Mais on a respecté la voix de Maurice. C'est ça qui prime, et justement, être le plus fidèle à sa voix si particulière, puisque dans le journal, on a des choses qui sont très politiques, très difficiles à lire, à traduire également, tout ce qui concerne la finance. Et ça côtoie tout le côté prosaïque du quotidien, comme les mots du corps ou des détails bien plus intimes.
Lui communique la jouissance qui répétait chez elle extrême. Sur le quai entre le Louvre et les Tuileries, nous nous étreignons à nouveau. Si le cocher avait tourné la tête, il aurait été témoin d'une scène surprenante.
Une scène surprenante de la jouissance, des têtes coupées. Qu'est-ce qui arrive à Paris?
Plein de choses. C'est justement là, ce qui fait l'originalité du journal, c'est tout le côté personnel que l'on peut avoir. Donc, comme j'ai dit, il y a des choses qui sont plus difficiles à lire, mais c'est ponctué comme ça de petits moments très jouissifs pour le lecteur également. Donc, par exemple, on va apprendre plein de choses également sur, des personnages comme Lafayette, Mirabeau ou d'autres nobles et aristocrates que l'on connaît moins, mais on va rentrer dans leur intimité à eux aussi également. Et on rentre même dans l'intimité du roi, si je peux dire.
Ça nous donne envie de lire, en fait, ce journal. Je pense que c'est un personnage intriguant et qu'on connaît peu, je dirais. Avant de passer à la dernière citation, moi j'ai une question peut-être particulière. Tu écris un journal intime?
Non, moi je n'en tiens pas.
Ok, merci.
Il paraîtrait que le roi est par nature cruel et vil. L'un des exemples qui m'a été donné est qu'il s'adonnait autrefois à faire rôtir des chats vivants. Je confie à mon ami que je ne peux croire de telles choses. Elle me répond qu'il était bel et bien coupable de tels méfaits lorsqu'il était plus jeune. Que c'est une brute et qu'il est mauvais, sa bestialité l'ayant même conduit à frapper son épouse lorsqu'il était dauphin, et qu'il fut exilé 4 jours par son grand-père, Louis XV. Elle ajoute que jusqu'à très récemment, il avait pour habitude de toujours déféquer dans sa main, cela étant plus pratique. Il ne fait aucun doute qu'un tel animal devrait être détrôné.
Vous venez d'entendre Émilie Mitran, Intimité révolutionnaire. Deuxième épisode de notre voyage spatio-temporel dans la recherche. À suivre, Anaïs Martin, Le son dans le son. Profession chercheur numéro 6 a été réalisée en mai 2018, en clôture de la formation doctorale sur la communication scientifique. Remerciements à Nicolas Chevassu, Philippe Hert et Jérôme Matteo. Équipe technique, Sébastien Gelli, Djilali Hamish et Anaïs Kabandé.